إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، reprenons ce soir la lecture du livre منهج السالكين de l'éminent شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Nous avons vu dans le dernier cours les paroles de l'auteur concernant la description de la prière et des différents actes et paroles légiférés durant cette prière. Toutefois, il est important de savoir que ces actes et ces paroles n'ont pas tous le même jugement. Parmi les actes et les paroles de la prière, certains sont des piliers, d'autres sont des obligations, et d'autres sont des choses recommandées. Il est donc nécessaire pour nous de savoir quels sont les piliers parmi les paroles et les actes, quelles sont les obligations parmi les paroles et les actes, et quelles sont les choses recommandées. Car, en cas d'oubli par exemple, ou d'erreur dans ta prière, il sera indispensable pour toi de différencier entre ces choses. En effet, le jugement ne sera pas le même en fonction de ce que tu as oublié, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc après la description de la prière, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a résumé de manière synthétique quels sont ses piliers et ses obligations. Et il a commencé par les piliers qui désignent tout ce qui fait partie intégrante de la prière et sans quoi la prière ne peut pas être valide. Et il a divisé ici les piliers en deux catégories, en mentionnant tout d'abord les piliers qui sont des paroles, puis ensuite les piliers qui sont des actes. Il a dit, rahimahullah, وَالْأَرْكَانُ الْقَوْلِيَّ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ. Et les piliers qui sont des paroles parmi les choses mentionnées, c'est-à-dire parmi les choses mentionnées lors de la description de la prière. Il dit premièrement, تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ. Le takbir de sacralisation. Lorsque tu dis Allahu Akbar, au début de ta prière, pour entrer en sacralisation, pour entrer dans ta prière. On a mentionné dans le dernier cours le hadith, nous démontrant que ce takbir est un pilier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la clé de la prière est la purification, et son tahrim est le takbir. On a expliqué que lorsque tu prononces ce takbir, tu es entré en prière et certaines choses deviennent pour toi interdites. Et elles ne redeviendront licites qu'une fois que tu auras fait les salutations. Parmi ces choses, il y a le fait de parler, de manger ou de boire. Donc ce takbir, si tu l'oublies, tu n'es pas entré en prière. Et la prière ne peut être valide sans celui-ci. Ensuite, il dit, rahimahullah, nous mentionnant le deuxième pilier parmi les paroles, وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَ. Et la récitation de la Fatiha, surat al-Fatiha. Et ce comme le démontre le hadith de Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière valide pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire surat al-Fatiha. » Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala. Toutefois, le cheikh rahimahullahu ta'ala nous dit que la récitation de surat al-Fatiha est un pilier, il dit « ala ghayri ma'moum » pour celui qui ne prie pas derrière un imam. On a vu que quand tu pries, tu peux te retrouver dans trois situations différentes, selon lesquelles certaines règles de la prière vont différer. Soit tu pries seul, soit tu es imam, soit tu pries derrière l'imam. Donc concernant cette question, la question de la récitation de la Fatiha, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que c'est un pilier, sauf pour celui qui prie derrière l'imam. C'est-à-dire que c'est un pilier pour celui qui prie seul, c'est un pilier pour l'imam, mais ce n'est pas un pilier pour celui qui prie derrière l'imam. Et ce qui est visé ici, c'est celui qui prie derrière l'imam lors des prières à voix haute. Et la preuve qu'ils ont mentionnée à ce sujet, démontrant que celui qui prie derrière l'imam fait exception dans cette question, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 204 de Surat al-A'raf, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » Et quand on récite le Coran, écoutez-le attentivement et observez le silence, ainsi on vous fera miséricorde. Et les gens de science ont mentionné que ce verset a été révélé concernant la prière. l'obligation d'observer le silence lorsqu'on récite le Coran durant la prière. Ils ont mentionné aussi comme preuve le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imam n'a été désigné que pour être suivi. Lorsqu'il prononce le takbir, prononcez-le, et lorsqu'il récite, observez le silence. Ils ont donc dit que ceci est la preuve que l'on doit observer le silence lorsqu'on prie derrière l'imam, et ce, durant les prières à voix haute. Quant aux prières à voix basse, alors, la récitation de la Fatiha est un pilier pour tous. Il est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam de la réciter. Et ce qu'a mentionné l'auteur est un des différents avis sur cette question, car cette question est sujette à divergence entre les gens de science. En effet, dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour été dérangé par certaines personnes qui récitaient derrière lui durant la prière du Fajr. Il dit alors: ne le faites pas, c'est-à-dire ne récitez pas derrière moi. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: sauf pour réciter la Fatiha, car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valide. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement fait exception de la récitation de Surat al-Fatiha. On en déduit donc, en réunissant entre ces différents textes, que certes il est obligatoire d'observer le silence lorsqu'on prie derrière l'imam et qu'il récite à voix haute, comme le démontre le verset ainsi que le hadith. Mais le moment où tu vas réciter Surat al-Fatiha, il fait exception à cette généralité, car la Fatiha est un pilier de la prière, et ta prière ne peut pas être valide sans sa récitation. Et le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a soutenu cela et a mentionné que ceci est l'avis prépondérant sur cette question. Mais cette question, elle reste une question au sujet de laquelle la divergence est admise, qui, comme celle que l'on a mentionnée précédemment, ne doit pas être une source de discorde et de division entre les musulmans. On a donc dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a soutenu que la récitation de Surat al-Fatiha est un pilier de la prière, sauf pour celui qui prie derrière l'imam lors des prières à voix haute. Et on a mentionné la divergence à ce sujet et l'avis prépondérant qu'a soutenu le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Mais concernant les prières à voix basse, comme on a dit, la récitation de la Fatiha est un pilier, elle est obligatoire pour tous, que tu pries seul, que tu sois imam ou que tu pries derrière l'imam. Et les gens de science ont même mentionné, parmi ceux qui considèrent qu'il est obligatoire d'observer le silence lorsque l'on prie derrière l'imam durant les prières à voix haute, ils ont dit que si l'on n'entend pas l'imam, si par exemple c'est une grande mosquée et que tu es loin de l'imam de sorte à ne pas entendre sa récitation, alors dans ce cas-là, tu devras réciter Surat al-Fatiha car tu ne seras pas concerné par l'obligation d'observer le silence étant donné que tu ne l'entends pas. Également, certains ont dit que si l'imam laisse un temps de silence après Surat al-Fatiha, comme certains imams le font pour laisser le temps aux fidèles derrière eux de la réciter, alors dans ce cas-là, tu devras réciter Surat al-Fatiha, même si tu considères qu'il est obligatoire d'observer le silence, car ici il ne récite pas. Il t'est donc possible de la réciter et tu n'es plus tenu, toi, d'observer le silence étant donné qu'il ne récite pas durant ce moment. Et c'est ce qu'a mentionné le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans le résumé de son livre sur la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne le troisième pilier parmi les piliers qui sont des paroles. Et il dit « وَالتَّشَهُدُ الْأَخِيرُ » est le dernier tashahud, c'est-à-dire celui qui précède les salutations finales. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et il fait aussi partie des piliers de la prière, « As-salat al-ibrahimiyya » la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on effectue après le dernier tashahud. Celle-ci est aussi un pilier, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans d'autres de ses ouvrages. Enfin, il dit, rahimahullah ta'ala, « wassalam » et les salutations, c'est-à-dire les deux salutations, à droite et à gauche, qui sont un pilier de la prière. Donc, pour résumer, ici, on a cinq piliers qui sont des piliers oraux, qui sont des paroles. Le premier takbir, la récitation de Surat al-Fatiha, le dernier tashahud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le dernier tashahud, et les deux salutations. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَبَاقِ أَفْعَالِهَا أَرْكَانٌ فِعْلِيَّةٌ et le reste de ces actes, c'est-à-dire des actes de la prière, sont des piliers liés aux actes. On a donc, premièrement, la station debout pour celui qui en est capable. Deuxièmement, l'inclination. Troisièmement, le redressement après l'inclination. Quatrièmement, la prosternation sur les sept membres. Cinquièmement, s'en relever, se relever de la prosternation. Sixièmement, l'assise entre les deux prosternations. Septièmement, la quiétude dans tous ses actes. On va revenir sur la quiétude, inshallah ta'ala. Huitièmement, l'ordre dans les piliers. Neuvièmement, l'assise pour le tashahhud. Ceux-ci sont donc les neuf actes qui font partie des piliers de la prière. On a donc un total de 14 piliers en réunissant entre les paroles et les actes. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit que tous les actes de la prière, qui sont ceux que l'on vient de mentionner, sont des piliers. Il dit « Illa at-tashahhud al-awwal fa-innahu min wajibati s-salah » à l'exception du premier tashahhud qui fait partie des obligations de la prière. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il va commencer ici à nous mentionner les obligations. Les obligations qui désignent tout ce qui fait partie intégrante de la prière, mais dont l'obligation est moindre que celle des piliers. De sorte à ce que, en cas d'oubli, elles peuvent être compensées par les prosternations de l'oubli, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Contrairement aux piliers qui, eux, doivent obligatoirement être accomplis et ne peuvent pas être compensés. Il est donc la première obligation, c'est le premier tashahhud, c'est-à-dire dans les prières dans lesquelles il y a deux tashahhud. Le premier n'est pas un pilier, mais c'est seulement une obligation. La preuve à ce sujet est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli durant une prière deux unités, puis il s'est levé et ne s'est pas assis, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le premier tashahhud. Les gens se sont alors levés avec lui, et lorsqu'il arriva à la fin de sa prière, ils attendaient qu'il fasse les salutations. Il a alors fait le takbir, c'est-à-dire avant les salutations, et s'est prosterné à deux reprises, alors qu'il était assis, puis a fait les salutations. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc que dans cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le premier tashahhud, et il ne s'est pas rassis pour celui-ci, mais il l'a compensé à la fin de sa prière en faisant les deux prosternations de l'oubli avant les salutations finales. Ceci nous démontre donc que le premier tashahhud est une obligation et que ce n'est pas un pilier, car si cela aurait été un pilier, il serait obligatoirement revenu à celui-ci. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « وَالتَّكْبِيرَاتْ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ » et l'ensemble des takbirs en dehors du takbir de sacralisation, c'est-à-dire tous les takbirs de transition, à chaque fois que tu prononces « Allahu Akbar » pour passer d'une position à une autre. Ceci fait partie des obligations de la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, « وَقَوْلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مَرَّةً فِي السُّجُودِ » Et le fait de dire « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ » pureté à mon Seigneur l'immense lors de l'inclination, et « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » pureté à mon Seigneur le plus haut, une fois durant la prosternation. Il est donc obligatoire lorsque tu pries de prononcer ces formules de rappel au moins une fois respectivement dans l'inclination et la prosternation. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que lorsqu'a été révélé « Fasabbih bismi rabbika al-azim » le verset 74 de Surat al-Waqi'a, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites-le lors de vos inclinations », c'est-à-dire dites « Subhana rabbi al-azim » lors de vos inclinations. Et lorsqu'a été révélé « Sabbih isma rabbika al-a'la » le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites-le lors de vos prosternations ». Et le shir nous dit, rahimahullah, que ceci est une obligation une fois. C'est-à-dire que le minimum obligatoire est que tu prononces ces formules une fois durant ton inclination et ta prosternation. Tu dis une fois « Subhana rabbi al-azim » lors de l'inclination et une fois « Subhana rabbi al-a'la » lors de la prosternation. Et on a vu dans le dernier cours que le minimum de la perfection est de le prononcer trois fois. Et le mieux est de les prononcer une dizaine de fois. Il est permis d'ajouter à cela en fonction de la longueur de sa prière. Et également, il est permis d'y ajouter d'autres invocations qui sont légiférées durant l'inclination et la prosternation, comme on l'a vu dans le cours précédent. Et lorsque l'on dit que cela est obligatoire une fois, il faut faire attention à ne prononcer cette parole qu'une fois que tu t'es incliné ou prosterné. Car il y a certaines personnes, ils partent en inclination, ils se relèvent immédiatement, et peut-être même qu'ils terminent de dire « Subhana Rabbi al-Azim »
alors qu'ils sont en train de se relever. Et ceci est une grave erreur dans la prière. Comme on va le voir, la quiétude est un des piliers de la prière dans l'ensemble de ces piliers. Donc pour prononcer cette parole, tu dois prendre soin de tout d'abord bien te maintenir en inclination. Et lors de la prosternation, que tu te sois bien prosterné sur tes 7 membres. Puis une fois incliné ou prosterné, tu prononces au minimum une fois cette parole. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa rabbi ighfirli bayna as-sajdatayn marratan marra wa ma zada fa huwa masnoon. Il dit, et de dire une fois, Rabbi ghfirli, mon Seigneur, pardonne-moi, entre les deux prosternations. Et ce qui est ajouté à cela est recommandé. Donc de la même manière que pour le tasbih, dans l'inclination et la prosternation, la demande de pardon, elle doit au minimum être prononcée une fois entre les deux prosternations. C'est-à-dire qu'une fois que tu es bien assis, tu dois au moins dire une fois Rabbi ghfirli. Et ceci fait partie des obligations de la prière. Et tu peux ajouter à cela, comme on l'a vu dans le cours précédent. Ensuite, il dit, toujours parmi les obligations, wa qawl sami'a Allahu liman hamida lil imam wal munfarid. Et la parole sami'a Allahu liman hamida pour l'imam et celui qui prie seul. Wa rabbana lakal hamd lil kull. Et rabbana lakal hamd pour tous. C'est-à-dire pour celui qui prie seul, pour l'imam et celui qui prie derrière l'imam. On a vu la distinction à ce sujet dans le cours précédent. Donc c'est une obligation pour l'imam et celui qui prie seul de dire « Sami'a Allahu liman hamida » lorsqu'il se relève de l'inclination. Puis une fois que tu t'es relevé et que tu es debout, tu dis alors « Rabbana lakal hamd » ou alors « Rabbana wa lakal hamd » ou alors tu ajoutes « Allahumma » devant cela. « Allahumma rabbana lakal hamd » ou « Allahumma rabbana wa lakal hamd ». Mais l'obligation est de dire au moins « Rabbana lakal hamd ». Et la preuve à ce sujet et le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, il faisait le takbir une fois debout. Puis il faisait le takbir lorsqu'il s'inclinait. Puis il disait « Sami'a Allahu liman hamidah » lorsqu'il redressait son dos de l'inclination. Puis il disait une fois debout « Rabbana wa lakal hamd ». Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, « Priez comme vous m'avez vu prier ». Ceci sont donc les obligations de la prière. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, « فَهَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ وَيَجْبُرُهَا سُجُودُ السَّهْوِ وَكَذَا بِالْجَهْلِ » Il dit donc ces obligations qu'il a mentionnées, le premier tashahhud, le tasbih durant l'inclination, la prosternation, le fait de dire « Rabbi ghfirli » entre les deux prosternations, de dire « Sami'a Allahu liman hamida » et « Rabbana wa lakal hamd » tu en es exempté en cas d'oubli. Et elles sont compensées par les prosternations de l'oubli. Et également, la personne est excusée pour l'ignorance. C'est-à-dire que si une personne ne sait pas que cela est une obligation et qu'elle ne le fait pas, alors sa prière est valide, incha'Allahu ta'ala. Il dit « Wal arkan la tasqutu sahwan wa la jahlan wa la amdan » et les piliers, tu n'en es exempt ni en cas d'oubli, ni en cas d'ignorance, ni s'ils sont délaissés volontairement. Et cela est la différence entre les piliers et les obligations. Le pilier, même si une personne est ignorante, quant à un des piliers de la prière, alors sa prière n'est pas valide, contrairement à l'obligation. En cas d'oubli d'un pilier, il est obligatoire de l'accomplir, contrairement à l'obligation, comme on l'a vu dans le hadith que l'on a mentionné précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié le premier tashahhud. Donc l'obligation, elle peut être compensée par les prosternations de l'oubli. Mais l'obligation comme le pilier, ils ne peuvent en aucun cas être délaissés volontairement. C'est-à-dire que si une personne les délaisse volontairement en connaissance de cause, alors sa prière est invalide. Après cela, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وَالْبَاقِ سُنَنُ أَقْوَالْ وَأَفْعَالْ مُكْمِلٌ لِلصَّلَاةِ » Et le reste sont des choses recommandées parmi les paroles et les actes qui peuvent permettre de compléter la prière. On a vu les 14 piliers de la prière, ainsi que ses obligations. Tout ce qui n'a pas été mentionné parmi les piliers et les obligations, cela fait partie des choses qui sont recommandées. Comme par exemple le fait de lever les mains, que ce soit lors du premier takbir ou des autres moments où cela est légiféré durant la prière. Cela fait partie des choses recommandées. Le fait de poser ses mains sur sa poitrine, la main droite sur la main gauche, cela fait partie des choses recommandées. Al-iftirash, la manière de s'asseoir durant
les assises dans la prière, ou tawarruk pour le dernier tashahhud lors des prières à deux tashahhud, et ainsi de suite parmi les choses qui sont recommandées dans la prière. C'est-à-dire que si la personne ne les fait pas, sa prière est valide, inshallah ta'ala. Mais il convient aux musulmans de faire des efforts pour accomplir de manière assidue ces choses afin de parfaire sa prière et d'augmenter la récompense de sa prière. Et ne pas penser que sous prétexte que cela est seulement recommandé, alors je peux m'habituer à le délaisser. Il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils apprennent que seule la récitation de Surat al-Fatiha est un pilier et que la récitation après celle-ci n'est pas une obligation mais seulement recommandée. Alors ils vont s'habituer à ne réciter que Surat al-Fatiha. Lorsqu'ils vont apprendre que le tasbih n'est obligatoire qu'une fois et que ce qui est prononcé après cela est seulement recommandé, alors ils vont s'habituer à le faire de manière continuelle une seule fois. Et ceci est une erreur. Certes, ta prière est valide si tu l'accomplis de cette manière, mais tu te prives toi-même de grandes récompenses. Et tu te prives toi-même de la perfection du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Priez comme vous m'avez vu prier. » Et également, on sait que la prière que l'on accomplit, on n'en sort pas toujours avec l'intégralité de sa récompense. Et plus tu feras des efforts pour t'attacher à ces choses recommandées, plus la récompense de ta prière sera grande. Bi'inillahi ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le serviteur accomplit une prière, mais il n'en obtiendra que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. C'est-à-dire que tu n'obtiens pas l'intégralité de la récompense de cette prière, mais que cette récompense, elle dépendra de la perfection de ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette prière. Plus tu feras des efforts pour accomplir ces choses recommandées, plus ta récompense sera grande. Et moins tu en feras, moins ta récompense sera grande. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « Wa min al-arkan at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha » Et il fait partie des piliers, c'est-à-dire des piliers de la prière, que tu fasses preuve de quiétude dans l'ensemble de ces piliers. C'est-à-dire que tu observes un temps d'immobilité dans chacun des piliers de la prière. Et le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné la preuve à ce sujet et il a dit « وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال » D'après Abu Huraira رضي الله تعالى عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » Lorsque tu te lèves pour prier, parfais tes ablutions. « ثم استقبل القبلة » Ensuite, fais face à la qibla. فكبر et prononce le takbir, dit Allahu Akbar. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. Puis lis ce que tu peux du Coran. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Puis incline-toi jusqu'à marquer un temps d'immobilité en inclination. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Puis redresse-toi jusqu'à être totalement debout. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Puis prosterne-toi jusqu'à marquer un temps d'immobilité en prosternation. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Puis relève-toi jusqu'à marquer un temps d'immobilité assis, c'est-à-dire entre les deux prosternations. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Puis prosterne-toi, c'est-à-dire pour la deuxième prosternation, jusqu'à marquer un temps d'immobilité en prosternation. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Puis fais cela dans l'ensemble de ta prière. Muttafaqun alayh. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'observer un temps d'immobilité dans chacun des piliers de la prière. La quiétude, elle fait donc partie des piliers de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour vu un homme qui ne s'inclinait pas convenablement et qui faisait ses prosternations furtivement dans la prière. Il a alors dit, sallallahu alayhi wa sallam, si un homme mourait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous rendez compte de cette menace sévère? S'il mourrait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, il s'abaisse pour se prosterner et se relève comme un corbeau qui picorerait du sang. Celui qui ne s'incline pas convenablement et fait des prosternations à la manière du corbeau, et semblable à un affamé qui mange une ou deux dattes, elle ne le rassasie pas. Ce hadith est donc une menace sévère contre le fait de s'empresser dans sa prière et de ne pas faire preuve de quiétude durant ses piliers. Et il démontre même que celui qui délaisse la quiétude dans sa prière, de sorte à s'incliner, se prosterner sans aucune quiétude, se lever, se redresser, comme le font certaines personnes qui prient à toute vitesse. Comme on a dit tout à l'heure, il s'incline, il dit Allahu Akbar, il s'est à peine incliné, il a à peine posé ses mains sur ce genou qu'il est déjà en train de se relever. Il dit Sami Allahu liman hamida, il dit Rabbana wa lakal hamd, et en disant Rabbana wa lakal hamd, il est déjà en train de partir en prosternation. Et ainsi de suite tout au long de sa prière. Il fait des mouvements à toute vitesse. Celui qui prie de cette manière, c'est comme s'il avait délaissé la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il mourrait sur une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait délaissé la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, celui qui la délaisse a certes mécru. Puis il a ensuite comparé à une personne affamée qui mange une ou deux dattes et qui n'est pas rassasiée par celle-ci. Car celui qui ne parfait pas ses inclinations et ses prosternations et ses différents piliers dans la prière, sa prière, elle ne va pas nourrir son cœur. Car la prière, c'est pour le croyant comme la nourriture de son cœur. C'est ce qui l'alimente, c'est ce qui lui donne sa force. Et ce pour ce qu'elle contient comme rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme soumission à lui par ses différents actes, la prosternation, l'inclination, ainsi de suite. Donc celui qui parfait sa prière, il va nourrir son cœur comme il se doit. Et plus sa prière sera parfaite, plus son cœur sera alimenté de la meilleure manière. Mais celui qui ne parfait pas sa prière, qui prie à toute vitesse sans aucune quiétude, alors cette prière ne nourrira pas son cœur. Son cœur sera faible et affamé. Son cœur deviendra malade, et il se peut même qu'il en vienne à mourir en raison de l'absence de sa nourriture, wal'iyadu billah. De la même manière que le corps mourirait si tu le prives de nourriture. Le cœur, il meurt si tu le prives de ce qui lui profite parmi les adorations. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a comparé à un affamé qui mange une ou deux dattes. Il ne va pas être rassasié. Il vient, il fait ses gestes à toute vitesse. Il prie de cette manière sans aucune quiétude. Cette prière, elle n'aura pas nourri son cœur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pire voleur est celui qui vole de sa prière. » Ils lui ont demandé alors « Ô messager d'Allah, comment l'homme peut-il voler de sa prière ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « S'il ne fait pas convenablement l'inclination et la prosternation. » Il a volé une part de sa prière en la négligeant de par son empressement. Dans un autre hadith, il est rapporté qu'il a un jour vu un homme qui ne faisait pas assez preuve de quiétude durant l'inclination et la prosternation. Il a alors dit « Oh, vous les musulmans, sachez que celui qui ne fait pas preuve de quiétude, qui ne reste pas un temps immobile durant l'inclination et la prosternation, il n'aura pas accompli sa prière. » C'est-à-dire que sa prière est invalide. Donc, tous ces hadiths nous montrent la menace sévère qui pèse sur celui qui prie sans quiétude, qui prie à toute vitesse, négligeant les différents piliers de sa prière, Wallahu al-musta'an. Et la quiétude est différente d'al-khushu'. Al-khushu', l'humilité, qui est parfois traduit par la concentration, qui elle fait partie de la perfection de la prière. Mais la quiétude, c'est un pilier, et celui qui la néglige, de sorte à ne pas rester immobile durant les différentes positions de la prière, que ce soit l'inclination, la prosternation, l'assise entre les deux prosternations, ou la station debout après l'inclination, alors sa prière est invalide. Wal'iyadu billah. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un autre hadith et il a dit « Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. » Priez comme vous m'avez vu prier. Ce hadith, il nous indique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier comme on l'a vu prier. Mais quelqu'un pourrait dire « Mais comment pourrais-je me soumettre à cet ordre alors que je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier ?» Les savants ont expliqué que la vision ici est de deux sortes. La première est la vision par les yeux, de le voir physiquement. Ceci concernait les compagnons radiallahu ta'ala anhum, qui voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Il leur a donc ordonné de le prendre pour modèle dans cette prière et de le suivre et d'accomplir ce qu'il faisait dans celle-ci. Et la deuxième sorte de vision, c'est la vision par la science, à travers les hadiths qui nous sont rapportés concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui étudie qui lit les hadiths rapportés à ce sujet, alors il sera comme celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et c'est pour cela que le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a intitulé son livre sur la description de la prière, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du premier takbir aux salutations finales, comme si tu la voyais. C'est-à-dire que par la multitude de hadiths qu'il a mentionné dans cet ouvrage, c'est comme si tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Tu peux donc ainsi le prendre pour modèle dans cette prière et compléter ainsi son suivi et augmenter tes récompenses dans ta prière. Car comme on l'a vu, il y a des choses sur lesquelles il est obligatoire de le suivre, qui font partie des piliers, des obligations de la prière, et il y en a d'autres qui sont recommandées. Après cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné ce qui est légiféré après la prière. Et il a dit « فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالْ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » Puis une fois qu'il a terminé sa prière, il implore le pardon à trois reprises. Tu dis « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Puis tu dis « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » Et ce immédiatement après avoir terminé les salutations. Et ceci fait partie des formules de rappel qui sont légiférées après la prière. Et il y a une grande sagesse en cela. En effet, comme on a dit, il se peut que dans ta prière, tu aies certains manquements. Il se peut que dans ta prière, tu aies, durant un certain moment, manqué de concentration. Il se peut que dans ta prière, tu n'aies pas parfait certaines choses qui sont recommandées. Et ainsi de suite parmi les manquements qui peuvent se produire durant la prière. Donc après celle-ci, qu'est-ce que tu fais? Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il te pardonne ses manquements, et que tu obtiennes la récompense de cette prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, que tu dis également une autre invocation qui est de dire « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'ma, wa lahul fadl, wa lahul thanaul hasan, la ilaha illallah, mukhlisina lahul din, wa law karihal kafirun. » Ceci fait partie des formules de rappel qui sont légiférées après la prière, et auxquelles il est recommandé aux musulmans d'être assidus. Et cette invocation est une invocation immense, car elle comprend la proclamation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, que tu prononces également Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, thalathan wa thalathin. Que tu dises 33 fois Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu peux les dire 33 fois en les disant les trois d'un coup, alors 33 fois séparément, en disant 33 fois Subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 33 fois Allahu akbar. Puis tu dis, pour compléter à 100, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Il y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah seul sans associer à lui la royauté, à lui les louanges, et il est capable de toutes choses. Ceci est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait cela à la fin de chacune de ses prières, c'est-à-dire les prières obligatoires, alors ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. C'est donc un mérite immense qu'il ne faut pas négliger. Et également, il est légiféré de réciter les trois dernières sourates du Coran, sourate al-Ikhlas, sourate al-Falaq et sourate al-Nas, mais aussi ayat al-Kursi. Celle-ci ne doit pas être négligée également, car il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de celui qui est assidu à sa récitation après chacune de ses prières, que rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. C'est-à-dire que la récitation de Ayat al-Kursi après ses prières est une cause pour qu'il mérite l'entrée au paradis une fois mort. Il est rapporté de certains savants qu'une fois qu'ils ont pris connaissance de ce hadith, ils n'ont plus jamais délaissé la récitation de ce verset après leurs prières. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « وَالرَّوَاتِبْ الْمُوَكَّدَ التَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرَ » Et les rawatib, qui sont les prières fortement recommandées, liées aux prières obligatoires. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici qu'elles sont au nombre de 10. Et il dit وَهِيَ الْمَذْكُرَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا. C'est celles qui sont mentionnées dans le hadith d'Ibn Umar رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا. قَالْ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. J'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 10 unités, c'est-à-dire 10 unités de prière surérogatoire. Rak'atayn qabl adh-dhuhr, 2 unités avant le dhuhr. Wa rak'atayn ba'daha, et 2 unités après celle-ci, 2 unités après le dhuhr. Wa rak'atayn ba'd al-maghrib fi baytihi, et 2 unités après le maghrib dans sa maison. Wa rak'atayn ba'd al-isha fi baytihi, et 2 unités après l'isha dans sa maison. Wa rak'atayn qabl al-fajr. Muttafaqun alayh. Et 2 unités avant le Fajr. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et dans une autre narration rapportée par l'imam al-Tirmidhi, rahimahum Allah ta'ala, il est mentionné 4 unités avant le Dhuhr. Et ceci fait un nombre total de 12. Ces 12 unités qui sont celles qui sont visées dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Habiba, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte qu'elle l'a entendu dire que celui qui prie 12 unités chaque jour et nuit, on lui construit une maison au paradis. Il y a donc un mérite immense à être assidu à ces 12 unités de prière. 2 et 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha et 2 avant le fajr. Ceci sont les prières que l'on appelle les rawatib, les prières surérogatoires qui sont liées aux prières obligatoires, et celles auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu, à l'exception des moments où il était en voyage. En effet, il est légiféré lorsque tu es en voyage de ne pas accomplir ces prières, sauf la ratiba du fajr, les 2 unités qui précèdent la prière obligatoire du fajr, car celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait jamais, même lorsqu'il était en voyage. Enfin, on voit également dans ce hadith la légitimité d'accomplir les 2 unités d'après le maghreb et celle d'après l'isha dans sa maison. Car comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de ne pas faire de nos maisons des tombes et d'accomplir des prières surérogatoires dans la maison. Et c'est ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a de grands bienfaits en cela. Il y a de grands bienfaits à ce que l'homme accomplisse certaines de ses prières surérogatoires dans sa maison. Premièrement, cela encouragera les gens de sa maison à en faire de même. Il sera ainsi un modèle en cela. Deuxièmement, cela est plus à même de t'éloigner de l'ostentation et à faire en sorte que cette prière, tu ne l'accomplisses que pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour rechercher les éloges et les compliments des gens. Toutefois, si la personne reste à la mosquée entre le maghreb et l'isha, alors il n'y a pas de gêne à accomplir cette prière à la mosquée. Ou alors si la personne, en sortant de la mosquée, après le maghreb ou après l'isha, elle sait qu'elle va avoir certaines occupations et qu'elle craint que si elle ne les accomplit pas à la mosquée, alors une fois chez elle, il se peut qu'elle ne l'accomplisse pas, pour différentes raisons. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à l'accomplir à la mosquée. Mais le mieux, et ce qui est préférable, est de l'accomplir chez soi. On a donc terminé avec ce passage, et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le prochain chapitre, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne les règles des prosternations de l'oubli, ainsi que des prosternations de la récitation, et du remerciement. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.